Aujourd'hui, samedi, c'est le 2 novembre, le journal. Bonjour Jean-Michel Naga.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une ce matin, la SNCF qui devrait tenir le choc finalement ce week-end.
Pour assurer les retours de vacances, en tout cas avec un trafic limité entre Paris et la façade atlantique, 8 TGV sur 10. Mais attention, la grève se poursuit au Technicentre de Châtillon et il pourrait faire tache d'huile, on en parle dans un instant. Dans l'Indre, le combat d'un retraité pour dénoncer la mort du petit commerce en zone rurale. Il s'appelle Jani Blanc, il tenait une jardinerie, mais criblé de dettes, il a dû mettre la clé sous la porte. L'équipe de Charlie Hebdo réunie aujourd'hui à Strasbourg pour une conférence sur la démocratie. C'est une première depuis l'attentat de 2015. La rencontre avec le public a bien sûr été placée sous haute surveillance. Et puis cette incroyable défaite du Paris Saint-Germain hier soir, battu 2-1 par Dijon, la lanterne rouge, les leaders du championnat, n'ont pas joué, c'est aussi simple que ça, nous disent les supporters bourguignons. Vous les entendrez dans ce journal.
Les invités de la matinale à 8h10, Patricia Martin, vous recevrez un petit nouveau.
Un petit nouveau, François Morel, qui sera sur scène dans 2 jours à la Scala à Paris pour un spectacle Raymond Devos.
Et à partir de 8h20, l'invité, René Dosière, l'ancien député socialiste, pour son livre intitulé « Fred de Palais », un livre sur son combat pour qu'il existe enfin un budget transparent à l'Élysée. Paris gagné depuis 2008 seulement.
France Inter.
La direction de la SNCF maintient donc ses prévisions ce week-end.
8 TGV sur 10 entre Paris et la façade atlantique. La direction assure avoir fait le nécessaire pour assurer les retours des vacances. Raphaël Delvolvé.
La SNCF l'assure, c'est le retard accumulé dans la maintenance des rames de TGV qui ampute une partie du trafic sur l'axe atlantique où seuls 8 trains sur 10 circulent grâce notamment à des rames de réserve qui ont été réquisitionnées. La SNCF qui affirmait aussi vendredi que la grève au Technicentre de Châtillon était nettement moins suivie qu'au pic du débrayage. De sources syndicales, on affirme cependant que le mouvement est toujours en cours. La SNCF dément aussi toute contagion à d'autres technicentres, affirmant que la production au Landy et à Villeneuve-Saint-Georges était normale vendredi. Une réunion de 4 heures entre la direction et des représentants des 3 établissements a eu lieu hier. Selon un représentant de Sudrail, les syndicats ont déposé leurs revendications et menacent de faire grève s'ils n'ont aucun retour lundi. Pour ce week-end, les trains devraient donc circuler conformément aux prévisions, c'est-à-dire à la normale, hormis sur l'axe atlantique.
Précision de Raphaël Delvolvé. 2 novembre, jour des morts, la date a été choisie symboliquement pour faire entendre la voix des commerçants et des artisans dans les zones rurales. C'est une initiative de Jani Blanc, un retraité de 64 ans qui tenait une jardinerie dans le centre-ville de Châtillon, dans l'Indre. Jusqu'en 2013, étranglé par les dettes, il a été obligé de mettre la clé sous la porte et ses revendications vont aujourd'hui bien au-delà de son cas personnel, Jérôme Collin.
Jani Blanc vit avec un ultimatum. Le 9 décembre, il devra quitter sa maison. Il la vend pour rembourser plus de 20 000 euros de dettes.
Je suis obligé de partir maintenant. Alors le 9 décembre, j'aurai plus d'habitation, que ça fait 40 ans que j'ai une maison à moi et là, j'aurai plus rien.
Ça fait 6 ans qu'il ne s'en sort plus depuis la liquidation en 2013 de son commerce, une petite jardinerie.
Le chiffre d'affaires baissait depuis 2008 et a baissé. Puis après, on n'y arrivait plus. Et puis le RSI m'a demandé une grosse somme. Les banques m'ont jamais fait de cadeau de toute façon.
Lui tient le coup, il garde le moral. Mais il veut sensibiliser le plus grand nombre.
Il y a des gens qui se suicident après les saisies, les commerçants, les artisans, les agriculteurs. Là, ici, il y avait plein de magasins, il n'y en a plus maintenant. Tout le monde ferme. Qu'on fasse revivre des communes comme celle-là. On enterre tout là en France.
La démarche de Jani Blanc est soutenue par de nombreux habitants de Châtillon sur Indre.
C'est triste de voir que des gens qui ont travaillé toute leur vie se retrouvent du jour au lendemain avec rien. Quoi. Justement, ces gens-là, on devrait les aider. On ne devrait pas les enfoncer comme on les enfonce.
Quand je suis arrivée, la rue Grande, il y avait des commerces partout, il y avait même Fildar, il y avait un magasin de sport, il y avait beaucoup de commerces et puis maintenant cette ville décline, comme beaucoup de petites villes en France.
À son arrivée à Châteauroux, Jani Blanc se rendra devant la préfecture de l'Indre, où il espère être reçu pour faire part de son témoignage.
Reportage de Jérôme Collin de France Bleu Berry. L'appel à la prudence sur la façade atlantique, 3 départements, vigilance orange, vent violent, la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde. Mesure de Météo France en prévision du passage de la tempête Amélie attendue la nuit prochaine en deuxième partie de nuit On attend de fortes rafales de vent allant jusqu'à 130 km/h. Au Mali, l'armée victime d'une nouvelle attaque terroriste hier soir près de la frontière avec le Niger. 53 soldats et un civil ont été tués selon nos confrères de RFI. Il y a un mois déjà, l'armée malienne avait subi deux autres attaques terroristes. La COP25 aura bien lieu à Madrid et les dates sont maintenues du 2 au 13 décembre après l'abandon du Chili confronté à une crise sociale. Le sommet mondial sur le climat sera donc maintenu grâce au chef du gouvernement espagnol. Pedro Sanchez, le dirigeant socialiste, sauve l'événement. Mais il y a aussi un calcul politique derrière cette décision à Madrid. Mathieu de Taillac.
Le maintien de la COP25 grâce à son transfert à Madrid est probablement une bonne chose pour la planète, mais c'est aussi un joli coup politique de Pedro Sanchez, un coup d'éclat international comme il les aime, décidé rapidement en saisissant une opportunité pour afficher aux yeux du monde entier le symbole de l'une de ses convictions. Après la solidarité humanitaire, quand Sanchez avait accueilli l'Aquarius, après les offensives de charme européistes lors des sommets à Bruxelles, on nous donne à voir l'urgence écologique prise à bras le corps par le dirigeant socialiste. En pleine campagne électorale, Sanchez montre ses réflexes politiques et s'élève un peu au-dessus de la mêlée. Même le maire de Madrid, de droite, est obligé de se dire heureux d'accueillir un tel événement. C'est un succès international pour Sanchez, décidément très à l'aise sur le terrain diplomatique. La question est de savoir si les réussites à l'extérieur importeront aux électeurs, qui ont surtout en commun leur fatigue et leur colère vis-à-vis des responsables politiques incapables de s'entendre entre eux pour gouverner le pays. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
Un rendez-vous exceptionnel aujourd'hui pour l'équipe de Charlie Hebdo. Plusieurs membres de l'équipe sont en effet à Strasbourg. Ils participent à un forum sur la démocratie. C'est une première pour l'équipe de Charlie Hebdo depuis l'attentat de janvier 2015. Et cette rencontre a été placée sous haute surveillance, Solène Delarquier.
Des policiers municipaux et des agents de la sécurité publique assureront la protection des membres de Charlie Hebdo tout au long de leur présence à Strasbourg. Il faut dire qu'une quinzaine de journalistes et dessinateurs sont attendus, dont Coco et Rhys. 4 ans après l'attentat, la rédaction continue de recevoir des menaces. Charlie Hebdo vit toujours sous haute sécurité. L'an dernier, Rhys évoquait pour la première fois le prix payé par le journal pour assurer la protection de ses locaux, plus d'1 million d'euros par an. Un exemplaire sur deux vendu en kiosque sert à financer cette protection. Le directeur de la publication fustigeait au passage une liberté d'expression devenue un produit de luxe, selon lui. Pour assister justement aux tables rondes sur le dessin de la presse, les menaces et la censure, les Strasbourgeois devront prendre leur mal en patience aujourd'hui. La rencontre débute à 14h30, mais les portes ouvriront dès midi et demi et il faudra passer par des contrôles renforcés, palpations, fouilles de sacs notamment. Le préfet a par ailleurs interdit toute manifestation autour de l'Opéra.
Solène Delarquier de France Bleu Alsace, les rencontres se déroulent donc cet après-midi à l'Opéra de Strasbourg.
Les sports avec ce coup de théâtre hier soir dans le championnat de Ligue 1 de football.
Un faux pas incroyable du Paris Saint-Germain battu par Dijon, la lanterne rouge, 2-1. C'est la 3e défaite de la saison pour les Parisiens après Rennes et Reims pour le plus grand bonheur des supporters dijonnais. La 12e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec 6 rencontres au programme, notamment Marseille-Lille à 17h30. Et Toulouse-Lyon à 20h. La Coupe du monde de rugby au Japon, c'est la finale ce matin à 10h. L'Angleterre affronte l'Afrique du Sud. Le 15 de Harrows est favori. Et hier matin, les All Blacks ont décroché la médaille de bronze en battant le Pays de Galles 40-17. Et puis en tennis, il n'y aura finalement aucun Français dans le dernier carré du Masters 1000 de Paris-Bercy. Gaël Monfils a dû s'incliner lourdement hier soir face au Canadien Denis Shapovalov. 6-2-6-2. Défaite aussi de Joe Wilfried Tsonga, battu par Rafael Nadal, 7-6, 6-1.
Un détour à présent par les archives de France Inter.
40 ans en arrière, Eric, le 2 novembre 1979, Jacques Mérine tombait sous les balles de la police, porte de Clignancourt à Paris. La fin d'une dernière cavale pour l'ennemi public numéro 1, un truand qui avait à son actif une quarantaine de meurtres, des attaques de banque, des prises d'otages, plusieurs évasions spectaculaires. Ce jour-là, les policiers lui avaient tendu un véritable piège en plein Paris. Les hommes du commissaire Broussard étaient cachés dans un camion bâché. La suite, c'est le directeur de la police judiciaire, Maurice Bouvier, qui le racontait en conférence de presse.
Lorsque Mestrine s'est vu entouré de voitures, il a entrouvert sa portière. Nous savions qu'il avait avec lui des grenades défensives. À partir de ce moment-là, nous ne pouvions pas le laisser utiliser ces grenades et nous avons été amenés à tirer.
N'y avait-il pas un autre moyen que de l'abattre tout de même? Vous êtes tous des tireurs d'élite, là.
Nous ne pouvions donc absolument pas permettre que Mesrine recommence. S'il était sorti en levant les mains, la situation aurait été tout à fait différente. Et par conséquent, nous ne pouvions pas prendre de risque.
Maurice Bouvier, donc directeur de la police judiciaire en novembre 1979. Et vous avez remarqué, Eric, on parlait de Jacques Mesrine.
Oui, on dit Mérine. Il y a toujours un débat sur la prononciation de son. Oui, le film était Mérine, effectivement, oui. Avec Vincent Cassel. C'était le journal de Jean-Michel Naga. Le temps.